Alors bonjour, bienvenue à cette étude intitulée Sexualité selon la Bible. Ah là là, pourquoi toucher un sujet comme celui-là à notre époque? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors, je vais vous donner quelques-unes des raisons pour lesquelles j'ai décidé de donner cette étude-là. Ça va être relativement simple. Ce n'est pas une étude compliquée, ce n'est pas une étude approfondie sur tous les sujets qui touchent le domaine de la sexualité. Donc, mais par contre, ça va être un survol de la Bible, Ancien, Nouveau Testament, qui va nous expliquer, nous enseigner qu'est-ce que la Bible a à dire sur ce sujet-là de la sexualité. Alors, vous pourrez toujours approfondir certains des thèmes si vous le désirez. Alors, j'ai évidemment quelques raisons pourquoi j'ai décidé de faire cette étude-là. Alors, premièrement, c'est parce que dans mes temps de prière, je demande à Dieu, je reste ouvert à Dieu. Alors, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de le faire. Vraiment la première raison. Deuxième raison, ceux qui suivent mes enseignements sont probablement déjà au courant que je visite les villages du Québec depuis plus de 10 ans maintenant. Chacun des villages, j'ai plus de 500 villages là, de visiter actuellement. Et évidemment, je rencontre des centaines, sinon des milliers de personnes parce que je visite chaque foyer, n'est-ce pas? Pour moi, c'est la meilleure manière d'avoir des conversations significatives avec les gens. Alors, j'ai des moments extraordinaires. Ceux qui désirent avoir un peu plus de détails, il y a un livre que j'ai publié qui s'intitule 1000 villages et qui est disponible évidemment sur l'un de mes sites internet. Vous pouvez le commander si vous désirez avoir des détails là-dessus. Mais la raison que je vous partage là, c'est que évidemment, je visite les régions du Québec un peu partout. Bon, j'ai aussi fait une tournée du Canada qui a duré 4 ans, là, mais on ne veut pas parler en profondeur de ça maintenant. Ce que je veux dire, c'est que je visite les églises. Et évidemment, j'écoute les prédications, j'écoute ce qui est partagé là-bas, j'apprends à connaître un peu les gens, les mentalités. Et quand je fais les visites des villages, alors c'est fréquent que je vais rencontrer des chrétiens que peut-être j'ai vu le dimanche à l'église, ou non, mais bref, des fois je vais voir une Bible sur une table. Alors, de toute façon, je parle de Dieu dans toutes les maisons, donc ceux qui sont chrétiens vont me le dire. Et c'est étonnant de voir les personnes qui sont là le dimanche, bien habillées, beau sourire, très pieux, n'est-ce pas? Et parfois, à leur domicile, c'est pas toujours la même image, parce que j'entre chez eux à l'improviste, je m'annonce pas, là. Et je me souviens, entre autres, à un moment donné, d'une jeune femme que j'avais rencontrée à l'église le dimanche, et par hasard, sans savoir du tout où elle habitait, je frappe à sa porte sur semaine, dans le cadre de ma tournée. Et puis là, finalement, elle vient me répondre, bon, ah oui, voilà, tu vas à telle église, on commence à discuter. J'étais tout content de rencontrer une sœur chrétienne, mais après peut-être 5 à 10 minutes, imaginez donc. Ah, il y a un monsieur qui sort de la chambre. Un peu fripé, n'est-ce pas, les cheveux ébouriffés. Et un peu mal à l'aise, mais alors j'apprends que lui aussi est chrétien, en guillemets, et lui aussi fréquente cette église-là depuis nombre d'années. Alors il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette dynamique-là. Lorsque je suis devenu chrétien en 1978, à cette époque-là, l'Église était jeune au Québec. On était tous de première génération de chrétiens pour la forte majorité, 98-99%. C'était tous des chrétiens de première génération parce que le Québec a été bafoué par le clergé catholique pendant des décennies. Et finalement, à cette époque-là, ça allait de soi. Si on se convertissait, on allait à l'église, on entendait les prédications, pleines d'amour, mais pleines de rigueur et de vérité. Et s'il y avait des jeunes d'entre nous qui couchaient avec leur blonde ou qui habitaient avec leur blonde sans être mariés, ça allait de soi. Ça prenait pas 3, 5, 6 mois, 1 an. C'était dans l'immédiat. Puis c'était pas quelque chose qui était forcé. Ça allait de soi. Alors, on comprenait à cette époque-là dans l'Église que si on devenait un chrétien, alors il y a des choses dans notre vie qu'on devait changer avec l'aide de Dieu, mais aussi avec un effort de volonté. Et je me souviens très bien plusieurs cas de mes amis aujourd'hui qui sont encore des chrétiens. Ils se convertissaient à Jésus, ils se séparaient de leur blonde, et ils priaient l'un et l'autre de leur côté, vraiment savoir si c'était la volonté de Dieu qu'ils se marient, qu'ils continuent la relation. Parfois c'était oui, parfois c'était non. Dans certains cas, l'un décidait de suivre Jésus, l'autre non. Alors il y avait une rupture et puis ils se sont remariés plus tard avec d'autres personnes. Mais ils ne continuaient pas à coucher avec, là. Continuaient pas à coucher ensemble, continuaient pas à habiter ensemble. Ça, c'était dans les années 70, les 60 ans aujourd'hui. Là. Mais dans notre époque, alors non seulement ça couche avec l'un et l'autre, ça va à l'église, c'est tout à fait confortable, puis on parle pas juste de nouveaux chrétiens, là. C'est que ça va même plus loin. Alors récemment, j'ai appris qu'une famille de chrétiens, on parle là, on parle de personnes qui fréquentent l'Église depuis plus de 10 ans, là. On s'entend, Église chrétienne, entre guillemets, parce qu'on doit mettre les guillemets aujourd'hui, parce qu'on ne sait plus vraiment où se situer, n'est-ce pas? Ça demande beaucoup de discernement, et c'est la raison pour laquelle il faut retourner à la parole de Dieu. Mais imaginez donc que les parents ont aidé leur jeune garçon dans la vingtaine a aménagé avec sa blonde chrétienne, pas sa fiancée, là. Cette petite nouvelle blonde, là, tu comprends, qui a connu dans l'Église, puis que ça fait à peine 2 mois qu'ils sont ensemble. Mais là, les parents vont y aider à aménager dans la maison de cette fille-là. Comme, entre guillemets, coloc. Oh, on est juste des colocs, voyons donc. Pensez-vous qu'ils vont se regarder dans les yeux sans rien faire? On connaît la mentalité des chrétiens d'aujourd'hui, des églises qui prêchent une fausse grâce, à qui mieux mieux, puis ces jeunes-là vont rester ensemble, tout seuls d'une maison, puis il n'y a rien qui va se passer. Ben voyons. Puis même s'il ne se passait rien, imaginez quel témoignage pour les voisins. Alors, on va parler de Jésus à nos voisins qui vivent dans l'adultère, qui vivent dans la débauche, qui vivent sans être mariés, qui couchent ensemble. Puis là, on va leur dire, bien là, si tu te convertis à Jésus, c'est écrit dans la Bible que tu ne peux plus coucher avec ta blonde, là. Mais moi, je reste avec la mienne. Comprends-tu? Ah, oh, mais on ne couche pas ensemble, fais-toi-en pas. Voyons donc. Hey, come on! Alors, mes amis, c'est là qu'on est rendu dans l'Église, là. Et puis, on est saturé de faux enseignements sur l'Internet. Beaucoup de gens ont arrêté d'aller dans l'Église. Certaines églises, c'est mieux d'arrêter, au moins de changer de place, là. OK? Mais on entend des trucs sur l'Internet, là. J'ai écouté l'autre jour une étude sur la masturbation, là. Évidemment, ça fait partie de notre sujet d'aujourd'hui. Et puis, le pasteur disait, « Ah, il n'y a rien dans la Bible qui parle de ça. » Et puis, vraiment, vraiment, un laisser-aller à plusieurs niveaux. Comprenez? Un autre pasteur que j'écoutais dernièrement, et ça, c'est très populaire, cette philosophie-là, dans l'Église, il dit, « Dieu n'est pas intéressé à ce qu'on... Il n'est pas intéressé au faire... » Il est intéressé au être. Autrement dit, le Seigneur, lorsqu'on va faire, ça ne le touche pas vraiment. Il n'est pas préoccupé par nos actions. Il n'est pas préoccupé par nos comportements. Il est préoccupé par notre position spirituelle de fils et de filles de Dieu. On est des fils et des filles. Ça, ça préoccupe Dieu. Et on peut vivre avec lui cette relation d'amour éternel, mais sans se préoccuper du tout de nos comportements, parce que Dieu, ça ne l'intéresse pas, vous comprenez? Puis ils vont pousser ça encore plus loin en disant, bien écoutez, Jésus, il est mort à la croix pour nos péchés. Alors, nos péchés passés, présents, futurs, Dieu ne les voit plus. Pour lui, la question du péché est réglée définitivement. Quand il te voit, Dieu ne voit plus tes péchés. Il n'a plus la conscience de tes péchés. Alors, t'enseignes ça dans les églises, là, semaine après semaine. Qu'est-ce que ça va produire? Premièrement, c'est pas biblique du tout. Je vais vous donner juste un passage. Prenez l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, où ça dit que Dieu, si tu es vraiment un enfant de Dieu, Dieu va te corriger de la verge. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Voyons donc, Claude, dis-nous pas ça. T'es bien légaliste. Bien, c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Donc, si Dieu ressent le besoin de corriger ses enfants, de nous mettre en discipline, de nous reprendre, puis même à la limite, parfois, à la limite de nous châtier, hein, c'est bien ça que ça dit dans l'Hébreu, vous chercherez dans le langage original, c'est ça que ça dit. Je ne changerai pas la Bible pour faire plaisir aux gens. Pourquoi est-ce que Dieu ressent le besoin de nous châtier s'il ne voit pas nos péchés, voyons donc? C'est des doctrines qui n'ont aucun bon sens. Alors, ce que ça produit un état d'apostasie. Alors, vous pouvez aller sur mon site. J'ai deux sessions sur l'apostasie. Je vous invite à écouter ces sessions-là. Et dans cette même foulée, j'ai ressenti que c'était nécessaire de faire des études. Peut-être je vais en faire sur d'autres sujets dans cette foulée-là aussi, mais présentement, c'est nécessaire d'aller voir ce que la Bible dit sur la sexualité. Pourquoi? Parce que ça a toujours été un point faible de l'humanité. L'ennemi a toujours utilisé les besoins sexuels des humains pour les amener à faire des choix désastreux, des choix qui ne sont pas selon le conseil de Dieu. Puis aujourd'hui, on est dans l'Église de la fin des temps. Une Église apostate, une Église tiède, selon ce que Jésus a dit dans l'Apocalypse. Alors, vous pensez quoi? Une Église qui ne veut pas entendre le genre d'enseignement que je donne là. Ils trouvent ça légaliste, comprends-tu? Ils trouvent que d'enseigner ça, c'est négatif. Il ne faut pas regarder au péché, il faut regarder juste aux belles choses. Mais je regrette, ce n'est pas ce que la Bible fait. Je lis ma Bible à tous les jours, là. Depuis les années 70, il y a des passages qui me font pleurer tellement que l'amour de Dieu est magnifique, puis il y a des passages qui me donnent une crainte de Dieu respectueuse. Je l'ai perdue à un moment donné dans ma vie, cette crainte de Dieu-là. Moi-même, j'ai été séduit. Je sais où ça mène, des fausses doctrines. Je sais où ça mène, des manières d'enseigner la Bible où ce qu'on va négliger les parties qui nous amènent à nous prendre en main, à agir, à se repentir de nos péchés. Il y a des églises qui ne parlent plus de ça jamais. Puis s'ils le faisaient, ils videraient la place parce que les gens qui sont là ne veulent pas entendre ça. Ils ne lisent pas la Bible, ils vivent dans le péché, puis ils sont bien comme ça. Ils sont confortables, puis ils sont bien accueillis dans l'église comme ça. Come on! On est dans le temps d'apostasie, c'est le temps de se réveiller, puis c'est le temps de retourner à la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est des pharisiens légalistes pour autant, c'est le contraire. Ça veut dire qu'on est en amour tellement avec Dieu le Père, puis avec le Seigneur Jésus, puis l'Esprit, qu'on aime tellement sa parole qu'on ne veut pas mépriser ce qu'il a dit. Voyons, pour ça, il faut la lire, il faut l'étudier. C'est évident. Comprenez? Alors, une autre chose que j'aimerais dire, dans cette étude-là, je ne vais pas traiter le sujet du divorce, du remariage, dans cette étude-là. Alors, juste ce thème-là, moi, je l'ai étudié personnellement pour moi, parce que j'ai vécu malheureusement un divorce il y a plusieurs années. Donc, je suis allé à fond dans la Bible, je voulais vraiment connaître la volonté de Dieu là-dessus, mais ça serait une étude en soi. Alors, si jamais le Seigneur me le met à cœur, je vous partagerai le fruit de mon étude sur ce sujet-là. Mais dans celle-là, je ne vais pas toucher ce sujet-là, du moins, je vais l'effleurer tout simplement parce qu'on va se concentrer sur ce que la Bible dit de la sexualité. Voilà! Alors, on va démarrer premièrement en regardant ce que la Bible dit de la sexualité. Dans l'Ancien Testament, vous voyez, parce que Jésus était toujours connecté avec l'Ancien Testament. On voit ici dans Matthieu 19, 8, Jésus a dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur » que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Alors, au commencement, à quel commencement Jésus se référait? Alors, il se référait à la parole de Dieu. Évidemment, Jésus connaissait les Écritures. C'est lui qui les a écrites en tant que Dieu, par le Saint-Esprit. Alors, voyons, c'est nécessaire qu'on s'attache à la parole de Dieu écrite, voyez? Parce qu'encore aujourd'hui, dans l'Église, il y a des gens qui se croient tellement spirituels, ils disent que la parole de Dieu écrite, c'est la lettre. Comprenez? Alors, la lettre tue. Donc, perds pas ton temps à lire trop la Bible. Là. C'est charnel, c'est juste la lettre. Là. Tu sais, tu peux rien faire avec ça. C'est la loi. Qui va être toute la Bible, là, toute la Bible au complet, c'est comme un livre de loi. Là. Puis ce qui est important, c'est la parole de Dieu révélée. Ah! Qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous dire? Oui, le Saint-Esprit nous parle. Mais laissez-moi vous dire d'emblée, là, j'ai entendu des gens me dire des trucs qui supposément venaient du Saint-Esprit ou des supposés prophètes là, dire des choses, prier sur des gens, des absurdités anti-bibliques complètement. Alors, il y a une nécessité aujourd'hui de revenir à la parole de Dieu, de demander au Saint-Esprit de nous donner l'amour pour sa parole et de demander au Saint-Esprit de nous faire comprendre et mettre en pratique ce que le Seigneur nous a dit dans sa parole. Ça ne changera jamais, ça. La Bible était vraie il y a 1000 ans, elle était vraie il y a 100 ans, elle est vraie aujourd'hui. Si le Seigneur ne revient pas, dans 10 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, la Bible va être vraie encore. C'est la seule base infaillible qu'on a. Alors, faisons attention de bien la comprendre, de l'aimer, de l'étudier, de ne pas nous tromper ou nous laisser séduire par des beaux parleurs qui vont utiliser 2-3 versets de la Bible pour faire passer des philosophies qui n'ont rien à voir avec Dieu. Comprenez? On est dans cette époque-là. On est dans un temps d'apostasie. Il faut revenir à la parole. Comprenez? Très important. Bon, ça c'était mon introduction. Alors, il faut commencer. Au commencement, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Genèse 1, 27. C'est à cela que Jésus se référait. Quand Jésus a dit aux pharisiens, aux gens de son époque, il n'en était pas de même au commencement. Il se référait au début de la création. On pourrait faire un enseignement juste sur ce verset-là. Ça élimine carrément le mariage homosexuel. Hein? C'était bel et bien Adam et Ève. C'était pas Adam et Jocelyn ou Mario. C'est clair, il me semble, en tout cas. Et puis, ce n'était pas Adam avec Ève, Jacinthe, Pauline. Il y avait une seule épouse. C'était une épouse à vie. Donc, c'est ça que le Seigneur voulait mentionner ici. Parce que les pharisiens étaient rendus qu'ils divorçaient pour n'importe quelle raison. Alors, on n'entrera pas là-dedans, je vous l'ai dit tantôt. Oui, il y a deux clauses là, qui vont permettre un bris. Du mariage, cette alliance-là. Mais on ne va pas aller là-dedans. Mais néanmoins, le modèle de Dieu, c'est comme lui a établi les choses au commencement. Le deuxième point, rapidement, je peux vous dire que Dieu, là, c'est lui l'auteur de la sexualité. Alors, comprenez bien que Dieu, il n'est pas gêné de la sexualité. C'est lui qui a pensé à ça. C'est lui qui a décidé de créer l'homme et la femme comme ils le sont. C'est lui qui a décidé d'ajouter du plaisir à l'acte sexuel. Pensez-vous que Dieu, c'est un genre de bonhomme frustré là, qui ne veut pas qu'on touche ces sujets-là? Voyons donc, il faut le toucher de manière correcte. Tu sais, j'ai entendu l'autre jour un jeune homme, il me disait, il est allé à l'église, évidemment une église qui prône la grâce à qui mieux, hein, grâce infinie dans n'importe quelle sauce, sans parler des autres aspects de la Bible, évidemment. Alors, ça fait du monde qui vit dans le péché, puis ça ne les dérange plus pantoute. Puis imaginez donc, le jeune, c'est un nouveau chrétien, Comprends-tu? Les jeunes d'aujourd'hui, ils vivent la grosse débauche, là. Il a tout essayé, ce jeune-là. OK? En parlant, en passant par les jeunes filles, à aller dans les orgies, là, n'importe quoi! Tout est bon aujourd'hui. Il se convertit. Alors, le sevrage complet, on s'entend. Et puis là, ben, c'est pas facile au début, mais il tient bon. Il s'en va à l'église, à la réunion de jeunesse, qu'il appelle. Alors, le pasteur jeunesse, entre guillemets, on se demande si vraiment c'est un pasteur où il a été appointé là, sans le conseil du Saint-Esprit. Mais imaginez donc qu'il prêchait sur la sexualité, puis une partie de son enseignement, c'est de parler des jouets sexuels. Hein, tu vas dans une boutique de perversion, là, puis ils vont te vendre toutes sortes de gadgets. Comprends-tu, là, je n'entrerai pas dans les détails, là. Bien, il prêchait là-dessus. Que c'était correct d'utiliser ces affaires-là. Le jeune, il vient de sortir de la débauche. Il lutte, il prie, il lit la Bible, il essaie de devenir un chrétien qui marche dans les voies de Dieu. Puis on lui enseigne là-dessus, plutôt que lui donner un bon enseignement bien solide, bien équilibré. Come on! Alors, Dieu, il n'est pas frustré de la sexualité. C'est juste qu'on a besoin d'avoir de la sagesse dans notre manière de l'enseigner, puis dans quelles circonstances on va l'enseigner aussi. Je ne pense pas qu'un jeune nouveau chrétien qui sort de la débauche, il a besoin d'entendre parler des jouets sexuels. On s'entend. Alors, si vous ne me croyez pas que Dieu il est vraiment pour une sexualité, évidemment, dans le cadre du mariage et nulle part ailleurs, c'est ça que la Bible enseigne, alors allez lire le Cantique des Cantiques. Le livre commence comme ça. « Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin, etc. etc. » Vous lirez le livre. C'est vraiment très, très bon. Ça ne parle pas de jouets sexuels dans le livre. Soyez sans crainte. Troisièmement, avant qu'on touche les versets, il est nécessaire de mentionner qu'il y a une doctrine dans la Bible que les théologiens ont nommée la dépravation totale. Je vais donner la définition. L'homme, à cause de la chute, est séparé de Dieu, corrompu, souillé, pécheur et spirituellement mort. Alors, peu importe l'intelligence d'un individu, peu importe ses qualités, spirituellement, c'est l'état des humains. Je ne dis pas que corrompu dans le sens que tout le monde va être des fraudeurs ou souillé dans le sens que tout le monde va violer des filles, etc. Mais notre intelligence, on est en rébellion contre Dieu, dit la Bible. Notre intelligence est corrompue, pas juste par la sexualité ou toutes sortes de saletés, mais corrompue par des faux raisonnements. Pour ça qu'on a besoin de lire la Bible, pour avoir un lavage de cerveau, un lavage d'intelligence, parce que l'intelligence est corrompue. On est des pécheurs, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je rajoute ici, il n'a toutefois pas perdu sa capacité de libre choix et de se tourner vers Dieu pour être sauvé, secouru et transformé. Alors, on va tenir compte de cela parce que dans l'Ancien Testament, surtout, là, c'est pas un cadeau la sexualité dans l'Ancien Testament. C'est pas trop selon le plan initial de Dieu, comme Jésus le voulait. Et c'est pour ça que je trouvais nécessaire de mentionner ça. Et je vais rajouter ici un verset d'Hébreux 8:8. Ça dit, « Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y avait la nécessité d'une nouvelle alliance, le Nouveau Testament nous parle de la nouvelle alliance, alors c'est évident que c'est parce que l'ancienne alliance ne fonctionnait pas. Alors, elle avait un certain fonctionnement. Et le fonctionnement majeur de la loi, de l'ancienne alliance, c'était de démontrer à l'humain à quel point l'humain était dépravé, perdu, incapable de se sauver lui-même, incapable de pratiquer une justice qui plaît à Dieu dans ses propres forces. Voilà à quoi servait l'Ancien Testament. Et je vous garantis que la Bible est franche. Et c'est pourquoi vous allez constater dans les versets qui vont suivre que même des gens qui ont été utilisés par Dieu puissamment, ils avaient fréquemment des lacunes importantes dans leur vie, malheureusement. Et évidemment, les prédicateurs de la grâce exagérée vont utiliser cet aspect-là. Et puis, ils vont dire, « Ah oui, mais regarde la vie de David, regarde Abraham, regarde Lot, regarde les patriarches, comment ils étaient des pécheurs. » Puis Dieu, dans sa grâce, les utilisait comme si de rien n'était. Ce n'est pas comme si de rien n'était. Oui, Dieu a dû faire avec. Dieu a quand même accompli son plan parce que Dieu avait fait des promesses. Et il a tenu ses promesses, bon gré, mal gré, même si les humains qui l'utilisaient commettaient des fautes. Oui, Dieu a été fidèle à sa parole, mais l'alliance comme telle envers les humains n'a pas fonctionné dans le sens qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant d'avoir un système de loi, d'avoir une religion où ce qu'on tue des animaux pour pardonner les péchés, ça ne changeait pas suffisamment le cœur humain. C'est pour ça que Dieu a fait une nouvelle alliance plus puissante, plus efficace. Comprenez? Et ça commence, écoutez, ça le dit. C'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, l'alliance, ça ne marche pas. Tu ne l'as pas tenu, tu n'as pas été fidèle, puis moi non plus, je l'ai laissé aller. C'est pas que Dieu, c'est un Dieu infidèle, mais on pourrait dire quasiment que Dieu il a accepté des choses parfois quasi inacceptables selon sa sainteté. Comprenez? Donc, c'est important de mentionner ça. Un exemple. Je vous en donne un, Genèse 4, 19. Lémec, ça c'est dès le début, là. Écoutez, Lémec, c'est le père de Noé, on s'entend, là. Puis dans ce temps-là, comme vous le savez, les gens vivaient très vieux. Alors, je n'ai pas fait le décompte, là, mais Adam et Ève, ça faisait peut-être pas. Je ne sais pas s'ils étaient encore en vie, mais ils ont vécu, je pense, dans le bout de 900 ans, là. Tu sais, dans ce temps-là, c'était différent. Dieu avait créé l'humain avec des capacités incroyables. Ça s'est perdu, évidemment, en cours de route. Parce que le péché est venu petit à petit empirer la race humaine, même au niveau physique. Mais si Adam et Ève étaient morts, ça serait intéressant de faire le décompte là, au niveau des années. Je l'ai déjà fait dans le passé, ça fait longtemps, je ne m'en souviens pas. Mais dans le temps de Noé, il devait y avoir des gens qui connaissaient ou qui ont connu Adam et Ève personnellement, ou leur grand-père, comprenez? Donc, ce que Dieu avait donné comme ordonnance, ce n'était pas encore si loin de l'humanité. Puis en tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que ça ne s'était pas perdu. Ça ne s'était pas perdu parce que c'est venu jusqu'à Moïse, Moïse qui a rédigé le Pentateuque. Donc, c'est évident qu'il y avait une transmission orale, la volonté de Dieu, parce que c'est venu jusqu'à Moïse. Puis Dieu il a rajouté des éléments de la loi à Moïse. Mais concernant les débuts de la création, Moïse n'était pas là. Donc, c'est sûr que ça s'est dit de génération en génération. Alors, les mecs étaient au courant. Mais voici ce qui est dit ici, Genèse 4, 19. Les mecs prit deux femmes. Ah bon! Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tila. Vous voyez, on a même les noms de ces femmes. Et Genèse 4, 23, les mecs disent à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femme de l'émec, écoutez ma parole. Alors, qu'est-ce qu'il va leur dire? Hein? Est-ce qu'il va leur donner une révélation extraordinaire qu'il y a eu de Dieu, puis que vraiment, est-ce que l'émec était un homme de Dieu? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il va leur dire? Voici ce qu'il va leur dire. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Ah, ah, ah. Bon, alors, c'était pas un homme de Dieu du tout. Et l'Émec est le premier dans la Bible à avoir défié les ordonnances que Dieu avait données. Il est le premier polygame. C'était pas un homme de Dieu. Et il a décidé qu'une femme, c'était pas suffisant. On va en prendre deux. Et fort malheureusement, ça s'est perpétué dans tout l'Ancien Testament. Dieu, on va dire, Dieu a dû faire avec. Dieu n'a jamais, jamais, jamais enseigné, ni par les prophètes, ni par les patriarches, la polygamie. Dieu a fait avec parce que l'humain est dépravé. Voilà la vérité. Alors, Lémec, le premier polygame. Donc là, on va aller surtout maintenant, si je faisais mon étude sur le mariage, le divorce, le remariage, j'utiliserais ce verset-là de Lémec pour aller dans l'autre direction et vraiment maintenant d'ouvrir le sujet sur les mariages, les divorces, etc. Mais on va aujourd'hui aller dans l'autre branche où on va traiter des péchés sexuels. Alors, premièrement, la nudité. Ah bon? Définition. Bon, je sais que vous savez qu'est-ce que c'est, là, mais je donne des définitions pour être certain qu'on se comprenne bien. La nudité désigne l'état d'une partie ou de la totalité d'un corps humain qui n'est pas recouvert d'un vêtement. Évident, n'est-ce pas? L'usage public de la nudité peut être associé à de l'exhibitionnisme, peut être mis en prison. Tu te promènes tout nu dans la rue, tu vas te faire ramasser. Ça, c'est sûr. Pour le moment, sur certaines plages, entre autres en France, là, les dames peuvent se déshabiller, se promener sur les plages les seins nus. Il n'y a pas de problème. Puis, de toute façon, avec les sortes de maillots de bain qu'on a aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose à découvrir. Là, on s'entend. Alors, associé à l'exhibitionnisme et condamné en tant que tel, la nudité est aussi revendiquée comme une libération des mœurs. Alors, c'est plutôt ça qu'on vit actuellement. Donc, la nudité, on en a partout. Je me souviens, quand j'étais petit gars, c'était à moins que quelqu'un achetait des revues pornographiques. Tu n'avais pas de nudité à télévision, ni dans les journaux, ni dans aucune annonce. C'était absolument absent de la société. Mais aujourd'hui, c'est partout, évidemment. Puis c'est partout à tel point que les chrétiens vont écouter la télévision, ils vont cliquer sur l'Internet. Je ne parle même pas de ceux qui sont accros à la pornographie. Là. OK, ça, c'est un autre truc. Mais la nudité, là, ça ne nous dérange pas. Alors, c'est devenu quelque chose de normal. Alors, si on voit une personne nue sur l'Internet, dans un journal, on va un peu examiner la personne, on va la convoiter, etc. Tu sais, c'est rendu là, quelque chose de normal. Jamais de la vie que tu vas entendre prêcher contre ça dans les églises, voyons donc. Tu sais? Mais on n'est pas là pour examiner ce que les pasteurs disent. Là. On est là pour examiner ce que la Bible dit. Donc, pour les gens qui m'écoutent, qui trouvent ça vieux jeu, qui trouvent ça démodé, une prédication comme celle-là, bien, juste fermez votre appareil, puis allez sur l'Internet, continuez de faire ce que vous faites. Mais les gens qui ont encore un peu de bon sens, puis qui ont encore un peu le désir d'aller voir dans la Bible, évidemment, ce que Dieu a à dire, alors restez là, on va couvrir l'ensemble des péchés sexuels, puis on va prendre position dans nos vies par rapport à ça. Et ceux qui ont la crainte de Dieu, vont l'enseigner à d'autres. Ce n'est pas très populaire, je vous le dis tout de suite. Là. Faites juste risquer de passer pour un pharisien légaliste ou d'être rejeté, ou les gens n'auront pas envie de vous fréquenter plus qu'il faut. Mais peu importe, c'est ce que la Bible enseigne. Alors, la nudité, Genèse 9, 23. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père Noé. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Alors, c'est évident, c'est clair dans ce passage-là. Noé n'était pas correct. Noé était saoul, là. C'est sûr, avec un père comme les mecs, c'est pas une raison, là. Il n'y a pas de raison pour pécher. On ne peut pas mettre nos péchés sur le dos de nos parents, mais c'est sûr que ça n'a pas dû aider, là. T'sais, avec un gars comme ça, le premier à être un polygame, c'est ton père. Puis Noé, ben lui, il est né d'une de ces deux femmes-là. Là, t'sais, le premier polygame de la planète. Alors, c'est sûr que ça n'a pas dû être très bon pour lui. Bref, c'est pas une excuse, il s'est saoulé. Et puis, il était tout nu. Puis ces gars, l'un qui a vu ça, il a ri de lui. Et les deux autres avaient la crainte de Dieu. Donc, ils ont marché vers leur père reculons pour ne pas voir sa nudité. Puis tu vois plus loin, il y a une bénédiction sur ceux-là, puis il y a une malédiction sur l'autre. Alors, un autre passage qui démontre que pour Dieu, la nudité, ce n'est pas acceptable. Alors, Exode 20, 26, « Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. » Bon, c'est clair, c'est dans la loi. Dieu ne veut pas qu'on regarde la nudité d'un autre individu. Il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il y a un autre passage ici, Habacuc 2,15. « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. » Non, c'est clair. L'autre péché sexuel qu'on va regarder, l'inceste, définition. « Relation sexuelle entre parents à un degré pour lequel le mariage est interdit. » Par exemple, entre un parent et son enfant, ainsi qu'entre un frère et une sœur. Alors, c'est des relations sexuelles au sein d'une même famille. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas acceptable, évidemment. Lévitique 18, 3 à 6. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. C'était des coutumes, semble-t-il, qui étaient acceptées dans ces générations-là. Il y a beaucoup de coutumes qui sont acceptées aujourd'hui, qui sont inacceptables pour Dieu. Est-ce qu'on va suivre les coutumes de Canaan ou si on va suivre ce qui est dit dans la Bible? On a besoin de revenir à la parole. Alors on ajoute, vous ne suivrez point leurs usages. « Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. » Alors ici, c'est, comme vous allez voir dans la Bible, le mot « nudité » peut être utilisé, comme on l'a vu tantôt, simplement pour regarder la nudité de quelqu'un, regarder son corps nu. Ou encore, le mot est utilisé dans le sens d'avoir des relations sexuelles. Alors, vous irez voir dans le Lévitique, il est utilisé beaucoup dans cette optique-là aussi, mais pas seulement dans cette optique-là, dans les deux optiques. L'une, regarder le corps nu, l'autre, avoir des relations sexuelles. Alors ici, évidemment, c'est la deuxième signification. Tu ne t'approcheras pas de ta parente pour découvrir sa nudité. 2 Samuel 13, 2. Alors ici, on a un exemple. Les filles de Lot. C'est terrible. Alors, l'aîné dit à la plus jeune, « Notre père, Lot, est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Wow, imaginez. Tu sais, ça a l'air louable. Hein? On va dire, la fille, c'est sûr que c'était des temps barbares, là, mais on va dire, ben, coudonc, tu sais, elle avait peut-être une bonne raison, puis c'était une excuse, puis Dieu, il a passé par-dessus. Dieu n'a pas passé par-dessus. Dieu, c'est lui-même qui l'a dit tantôt, on l'a vu dans la loi. Tu ne couches pas avec ton père, ni tes frères, ni tes sœurs. L'inceste, Dieu, c'est non. Alors, elle a péché, ils ont péché tous les deux, imaginez, sont devenus enceintes de leur père. C'est très grave. D'autant plus que ce n'est pas vrai, parce qu'on a vu plutôt que Lot avait choisi d'habiter pas si loin que ça, d'Abraham, puis Abraham, il y avait tout un peuple avec lui, toute une tribu, là. C'est pas vrai qu'il n'y avait personne dans le peuple de Dieu pour avoir des maris et ces filles-là. Alors, ils étaient déroutés. Ça. Ils ont, de toute façon, ces filles-là, ils ont habité à Sodome. Là. Alors, ces filles-là, il y avait les mœurs de Sodome. On va le voir un peu plus loin. Comme aujourd'hui, là, on voit beaucoup de gens dans l'Église, là, ils n'ont pas les mœurs de la parole de Dieu, ils ont les mœurs du Sodome d'aujourd'hui, là, de notre société pourrie qui est au bord du jugement. Jésus, il disait à son époque, « Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. » Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui, vous pensez? Est-ce que le Seigneur serait là à louer, « Ah, oh, wow, quelle belle génération! » C'est une génération qui est au bord de l'Apocalypse. Puis l'Église est apostate dans tout ça. L'Église est dans l'apostasie, elle vit comme le monde. L'Église a adopté les coutumes de Canaan et de Sodome. 2 Samuel 13, 2. Amon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amon de faire sur elle la moindre tentative. Je me souviens bien, c'est le fils de David. Comprends-tu? Il était passionné pour sa sœur ou sa demi-sœur. Là, je n'ai pas été voir dans le contexte. C'était non. Dieu a dit non. Il l'a fait pareil. L'homosexualité. Définition. Avoir des relations sexuelles avec une personne du même sexe. Femme avec femme, homme avec homme. Alors, on comprend bien qu'il y aurait un débat à faire là-dessus. Hey, il y a des églises qui se disent des églises chrétiennes. Mettre des pancartes en haut, là, à l'entrée de l'église. Bienvenue aux gays et aux lesbiennes. Hey! Je dis pas qu'il faut les mettre dehors, là. On s'entend, l'église, c'est bon pour tout le monde. Mais les autres, dans le sens qu'ils disent, là, c'est continuer à avoir vos relations sexuelles, homosexuelles, puis venez dans l'église, pareil, on va vous accepter. Hey! On est rendu loin, les amis, là, dans les péchés et dans les séductions. Est-ce que la Bible nous parle de l'homosexualité? Est-ce que c'est rendu que c'est un sujet tabou? Il ne faut plus parler de ça dans l'Église. Come on! On ne parle pas juste de ça. On ne méprise pas les gens. Qu'ils soient homosexuels ou adultères devant Dieu, c'est pas mieux, là. Mais on va dire la vérité dans les deux cas, avec amour. Voilà. Ce n'est pas l'idée. Ah, tu juges. Tu juges, c'est sûr que je juge. C'est ce que la Bible nous encourage à faire. La Bible ne nous dit pas de juger avec mépris, de se penser mieux que les autres, puis ah, moi, monsieur le saint, là, c'est pas vrai, je ne suis pas plus saint qu'un autre, il y a des affaires dans ma vie, il faut que je change encore. Pas l'idée de se comparer, c'est l'idée de dire ce que la Bible dit, c'est l'idée d'enseigner la vérité. On a une responsabilité de s'enseigner nous-mêmes dans la parole de Dieu puis d'enseigner la génération dans laquelle on vit, voyons. C'est sûr que ce n'est pas bien accueilli. Venez, je ne sais pas où vous habitez, mais venez faire un tour au Québec. Allez parler contre l'homosexualité, là, même aux gens de la rue, dans les médias, à peine s'ils vont vous lapider. Ils appellent ça de la tolérance. Ils ont de la tolérance envers les homosexuels, les pédophiles, les débauchés de la pire espèce, mais toi, si tu leur dis la vérité selon la Bible, ils n'ont aucune tolérance pour toi. Come on! Non, par amour pour Dieu, il faut dévoiler la vérité. Et puis, je connais des gens, j'ai un bon ami qui a été homosexuel avant d'être chrétien. Il est père de 4 enfants aujourd'hui. Il est marié, ça fait près de plus de 30 ans. Une famille exemplaire. Il n'a jamais retourné dans son péché après sa conversion. Hey, lâchez-moi, là. Ah, les homosexuels, ils sont nés comme ça. C'est Dieu qui les a faits comme ça. Pas vrai. Il peut y avoir des gens, des hommes, avec un physique un peu moins robuste, là. Ça peut arriver. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont homosexuels pour autant, là. Come on. C'est clair dans la Bible. Lévitique 20, verset 13. « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous les deux une chose agréable à Dieu. » C'est ça qui est écrit? Non! Ils ont fait tous les deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Hey! OK, on comprend que la loi dans l'Ancien Testament, c'est pas la loi qu'on applique actuellement dans nos sociétés démocratiques. On comprend ça. Mais il y a une chose qui est claire, en tout cas, c'est que pour Dieu, l'homosexualité, pas plus que les autres péchés sexuels, n'est pas acceptable. Alors, si il y a des homosexuels qui viennent à l'Église, on ne va pas les tuer, on ne les mettra pas en prison. Dans notre société, on ne fait pas ça. Mais on va leur enseigner ce que Dieu en pense. Puis s'ils veulent être des chrétiens, il faut qu'ils abandonnent leurs petits amis. Puis s'ils ne veulent pas se marier, qu'ils ne se marient pas, qu'ils restent célibataires. Il y en a des célibataires. Ils ne mourront pas, là. « Ah non, voyons donc, ça n'a pas de bon sens ce que tu enseignes là. » Comment ça? S'il y a un jeune couple qui est marié, là, la femme ou l'homme, accident d'automobile, paralysé, paraplégique, jusqu'à sa mort, c'est quoi vous allez dire, monsieur le pasteur? Ah ben là, tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux plus avoir de sexe avec ton conjoint, ta conjointe. Divorce, puis trouve-en une autre. Tu ne pourras pas vivre, tu vas être malade. Pas de relation sexuelle, ça n'a pas de bon sens. Tu ne peux pas vivre comme ça, c'est impossible. Ah bon? Je connais des couples qui ne peuvent pas avoir de relation sexuelle. Apparemment, ils ne sont pas malades, puis ils fonctionnent bien. On a accepté des faussetés, là. Alors, si la personne homosexuelle, il n'y a pas d'attirance à cause des perversions de l'humanité, s'il ne veut pas se marier, qu'il ne se marie pas, mais il ne peut plus coucher qu'un autre homme, et la femme ne peut pas coucher qu'une autre femme s'ils veulent être des chrétiens. C'est clair dans l'Ancien Testament, et de toute manière, tantôt, on va voir dans le Nouveau Testament si ça contredit l'Ancien. Parce que c'est une autre absurdité qu'on entend souvent aujourd'hui par les faux enseignants. L'Ancien Testament, c'est plus bon, c'était juste pour une époque. C'est vrai que l'Alliance a été changée, mais ça veut-tu dire que tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament est plus bon? Ben voyons donc! Alors, il faut au moins vérifier la dynamique à faire, puis c'est ce qu'on va faire tantôt, puis c'est ce que je fais dans plusieurs de mes études. On va vérifier ce que l'Ancien Testament enseigne, puis qu'est-ce qui a été mis de côté dans la Nouvelle Alliance, puis qu'est-ce qui est demeuré dans la Nouvelle Alliance. Alors, qu'est-ce qui est demeuré dans le Nouveau Testament, ça veut dire que ça s'applique encore à nous autres. Tu sais, tu n'as pas besoin d'un doctorat en théologie pour comprendre ça. C'est pas trop compliqué, hein? Alors, on continue. Genèse 13:13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Pourquoi? On va le voir. Genèse 19:4. Les gens de Sodome entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. La maison de Lot, là. C'est juste avant que le jugement de Dieu tombe sur Sodome puis qu'il brûle la ville au complet. Sodome et Gomorre. Pourquoi? Parce que c'était une gang de pécheurs qui ne voulaient pas se repentir. Pensez-vous que Dieu, c'est un petit mouton doux, puis que le péché, ça ne le dérange pas? Ceux-là qui pensent que dans Nouvelle Alliance, Dieu ne voit plus les péchés là, parce qu'ils n'ont pas lu l'Apocalypse. Le jugement, il est juste différé. C'est ça la grâce de Dieu. Parce que Jésus nous a tellement aimés qu'il est mort sur la croix, c'est comme si Dieu a mis son jugement sur pause, là. Okay? Ça, ça ne veut pas dire qu'après la mort, les gens vont, tout le monde va au ciel, là. Ça, c'est une autre doctrine de fou. J'ai trois sessions sur l'universalisme. Ceux qui croient ça, là, que tout le monde est sauvé, vous irez écouter ces sessions-là. Vous allez dire, voyons, Claude, ça n'a pas d'allure. Ben, c'est drôle, mais c'est 60% des évangéliques qui croient ça aujourd'hui. C'est une vraie blague. Vous irez écouter mes enseignements. J'ai mis des citations, des références. Donc, effectivement, même dans la Nouvelle Alliance, les gens qui meurent sans Jésus-Christ vont en enfer. C'est clair et net. Okay? Pas de compromis là-dessus. C'est Jésus qui a enseigné ça. Pas moi qui l'invente. Mais le jugement sur les nations, les jugements comme Dieu faisait dans l'Ancien Testament, des fois d'envoyer des nations pour slasher toute la ville à Israël, ou etc., parce qu'il y avait des pécheurs, ou que Dieu descendait du ciel. Hein? C'est ça qu'il a fait, là. Dieu a descendu sur terre puis il est venu juger deux villes. Tout le monde est mort. Il est venu les juger. Pourquoi? Dieu, il est-tu quelqu'un de méchant? Non! Il est plein de bonté. Mais Dieu, il est plein de sainteté aussi. Et la justice et la sainteté de Dieu exigent de sa part que Dieu réagisse par rapport au mal et effectue le jugement. Ça fait partie du caractère de Dieu, que ça nous plaise ou non. C'est ce que la Bible enseigne. Si vous ne voulez pas de la Bible, continuez à vivre dans le mensonge. Vous verrez après la mort si ce qui est écrit dans la Bible est vrai ou faux. Il sera trop tard. pour vous. Vous avez rejeté Dieu. Alors, le jugement de Sodome et Gomorre sont un pur exemple que Dieu ne tolère pas les péchés, incluant l'homosexualité et les autres. Comprenez? C'est dit, c'est répété. Même dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous dit, je pense que c'est Paul qui écrit ça, que les villes de Sodome et Gomorre ont été données en exemple pour nous autres. Alors le jugement, oui, le jugement est différé parce que Jésus est mort sur la croix. On appelle ça la période de la grâce. C'est là qu'elle s'applique, la grâce de Dieu. Mais le jugement de Dieu, que ça soit sur un individu qui va mourir sans Jésus-Christ, il va mourir souillé dans ses péchés, il va en enfer. Pas le point de non-retour est là, là. Si vous riez, si vous ne me croyez pas, étudiez la Bible, vous allez voir, c'est Jésus qui a enseigné, comme je le dis. Et le jugement de Dieu est différé jusqu'à la fin des temps, dans l'Apocalypse, et je vous garantis que ce qui s'est passé à Sodome et Gomorre, Dieu va le faire encore, mais sur la planète au complet, dans l'Apocalypse. Alors, venez pas me dire là, que Dieu, c'est pas vrai qu'il juge. Il juge. C'est la Bible qui l'enseigne. Alors, c'est à nous autres à se prendre en main, c'est à nous autres à se convertir, c'est à nous autres à être lavés par le sang de Jésus, et c'est à nous autres à changer nos comportements de péché avec la puissance du Saint-Esprit. Oui, c'est ce que la Bible enseigne. Voilà, l'homosexualité, on est rendu qu'on dit, on se fait critiquer dans les églises. Il y a des pasteurs qui m'ont critiqué parce que j'ai dit que l'homosexualité, c'était pas correct. Et c'est pas qu'ils disent que c'est pas péché, c'est qu'ils trouvent ça honteux qu'on le dise. Faudrait pas en parler parce qu'on est des homophobes. Wow! Ça, c'est des chrétiens qui disent ça, là! Come on! Alors, les gens de Sodome entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. C'est incroyable ce qu'on peut entendre de la bouche d'enfants. Un petit bonhomme de 9 ans l'autre jour, il a dit des choses. J'étais gêné pour ses parents. Des perversités incroyables. Où il a appris ça? Évidemment, chez lui. On pense que les enfants sont tous des purs, là. Pas vrai. Toute la population était accourue, toute la ville était là. Pourquoi ils sont allés à la maison de Lot? Le verset le dit. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fallait sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Oh! 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 Connaissions pas dans le sens, c'est quoi votre nom et votre adresse, là? Pas ça. Fallait sortir, on veut coucher avec eux autres. On veut les violer. Ils sont beaux, des beaux gars, là. Fallait sortir, on va s'en occuper. Hein? Vous lirez la suite. Je continue. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que l'étude va être longue. De toute façon, toutes mes études sont longues. Si vous êtes tanné, vous l'écouterez en deux sections. C'est tout. L'autre péché, la bestialité. Alors là, on ne va pas s'étendre là-dessus. Mais c'est malheureusement un péché qui est encore pratiqué aujourd'hui. Alors, la définition, c'est très, très simple. Avoir des relations sexuelles avec des animaux. Animaux. Je ne donnerai pas de détails, là, mais j'ai parlé il y a quelque temps avec une jeune femme absolument jolie comme ça se peut pas. Okay? Elle se démarque par sa beauté. Elle a un doctorat en psychologie. Et puis, elle est très libérée au niveau des mœurs, hein? On s'entend, là. Et puis, elle a commencé à me parler que son chat, elle a un gros chat noir, là, que le chat participait à sa sexualité. Comprenez-vous? Alors, les gens qui pensent là, que c'est juste les personnes qui ont des problèmes en santé mentale ou des gens barbares là, ou des gens de bas de gamme là, qui vont descendre aussi bas que ça là, d'avoir des relations avec des animaux, là, ben je l'ai entendu de mes oreilles, comprenez-vous? D'une femme ultra jolie qui a un doctorat en psychologie. Wow! Ben, savez quoi, madame? C'est écrit dans le Lévitique, 20:15. Si un homme couche avec une bête, évidemment un homme ou une femme, ça ne fait pas de différence, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Comprends-tu que pour Dieu, ce n'est pas des choses à la légère? Les gens vont trouver ça sévère. Hein? Dieu ne cohabite pas avec le péché. Point à la ligne. L'autre péché sexuel, la masturbation. Aïe, aïe, aïe. Alors, définition. Excitation manuelle des organes génitaux dans le but de provoquer le plaisir sexuel. La masturbation se rencontre dans les deux sexes et constitue la forme la plus fréquente d'excitation sexuelle. Alors, les pasteurs n'osent pas beaucoup enseigner là-dessus. Est-ce que la Bible en parle? Alors, on va voir un verset dans l'Ancien Testament qui peut être interprété d'une façon ou d'une autre, je l'admets. Mais tantôt, on va voir un autre passage absolument très clair dans le Nouveau Testament. Alors ici, dans l'Ancien, Genèse 38 et verset 9. « Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. » Alors l'histoire, là, c'était les fils du patriarche, je pense c'est le patriarche Judas, fils de Jacob, et son frère était mort. Alors dans l'Ancien Testament, si ton frère meurt, s'il reste un autre frère plus jeune ou un autre frère qui n'est pas marié, alors il va marier la femme de son frère comme pour donner une postérité à son frère. Bon, c'est une coutume de cette époque-là, mais c'est comme ça que ça fonctionnait. Alors lui, il n'était pas content de ça, puis il a décidé, avec rébellion dans un sens, en tout cas il rebiffait, là, qu'il ne voulait pas faire ça. Alors plutôt que de coucher avec la femme, il se souillait à terre. Bon, alors, je n'irai pas dans les détails, là, mais on comprend bien de quoi il s'agit. Là. Puis Dieu, il n'a pas trouvé ça correct. Alors, il y en a qui vont dire, non, c'est pas le geste de masturbation que Dieu n'a pas aimé, c'est le fait qu'il ne donne pas de postérité à son frère. Bon, alors évidemment, c'est peut-être l'un, c'est peut-être l'autre, c'est sans doute les deux, parce qu'on va voir ce que Dieu en pense tantôt dans le Nouveau Testament. La fornication, quel mot c'est ça? Alors, on va le définir. Fornication ou débauche, il est utilisé dans deux termes, là. Un rapport sexuel consenti entre un homme et une femme non mariée. Hein? Bien simple. Tu n'es pas marié, tu couches avec ta blonde, tu couches avec quelqu'un, tu es un débauché, tu es un fornicateur, selon la Bible. Deutéronome 22-23. Si une fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. Penses-tu que Dieu ne prend pas ça au sérieux? Là? La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour l'avoir déshonoré, la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, et lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera puni de mort. Bon, c'est clair. Dieu, il est sévère par rapport au péché sexuel. Aujourd'hui, la peine de mort, évidemment, est plus pratiquée. Mais dans ce qu'il faut comprendre, là, c'est que dans la justice de Dieu, Dieu n'a pas changé d'idée. Là. Tu ne peux pas coucher avec ta blonde, tu ne peux pas te masturber, tu ne peux pas avoir des relations sexuelles avec des membres de ta famille, tu ne peux pas vivre des péchés sexuels puis de penser que Dieu, ce n'est pas grave pour Dieu. Là. C'est ça que ça enseigne. L'Ancien Testament, c'est à ça que ça sert. La loi, elle sert à nous montrer le standard de Dieu. Mais le standard de Dieu, il n'a pas changé. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui n'est pas enseigné beaucoup actuellement. Il y a un autre passage, Deutéronome 22-20. « Si la jeune femme n'est point trouvée vierge. » Alors ici, le contexte, c'est qu'il y a un jeune homme qui marie une jeune femme. Et puis, il couche avec. Puis là, le lendemain, il dit à ses parents, puis il dit à tout le monde, il dit « Malheureusement, là, je ne peux pas rester avec cette femme-là. parce qu'elle n'est pas vierge. Comprends-tu? Elle a eu des relations sexuelles. Elle est une débauchée. Okay? Elle a forniqué. Okay? Elle a accouché avec quelqu'un d'autre là, avant d'être mariée. C'est ça qu'il dit. Donc là, si les parents, parce que dans ces années-là, ils couchaient, là, puis le drap, après qu'il avait fait l'acte sexuel, la fille, si elle était vierge, évidemment, il y avait eu du sang. Il y a un écoulement de sang. Puis les parents présentaient la preuve de sa virginité. Donc, à ce moment-là, on disait au gars, « Regarde, la preuve est là, mon ami. Peut-être que tu as couché avec puis tu n'as pas aimé ce que tu as vécu comme expérience sexuelle, mais tu ne vas pas la divorcer pour ça. » Aujourd'hui, les gens se divorcent à qui mieux. « Ah, ben là, on n'a plus tellement de plaisir dans le lit. On va se divorcer puis on va trouver d'autres partenaires. » Dans ce temps-là, ce n'est pas de même que ça fonctionnait. Dieu n'a jamais mis la sexualité comme priorité dans le mariage. Ça, c'est clair. Ça fait partie. Puis le plaisir fait partie, mais ce n'est pas la priorité. Alors, si le monsieur, parce qu'il n'a pas aimé son expérience sexuelle, ce n'est pas ce qu'il s'attendait, s'il veut laisser la fille pour ça, si la fille était vierge, la loi ne lui permettait pas. Ça avait plein de bon sens, évidemment. Par contre, c'est là que ça dit dans notre texte, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, alors là, c'est d'autres choses, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Voyez-vous comment Dieu voit ça? C'est très, très important qu'on comprenne bien ce que la Bible enseigne. Si tu commences à croire ce que Dieu croit, là, il y en a même qui vont te traiter de... Ils vont dire, t'es comme les musulmans. T'sais? Toi, t'es un fanatique. T'es un fanatique parce que tu dis que les péchés sexuels, c'est Dieu n'aime pas ça. Dieu il est trop sévère, là. T'es un fanatique. OK, c'est ça qu'ils disent. Bien, je regrette, mais les passages où les musulmans, où la foi musulmane est en accord avec la Bible, c'est le livre de Dieu. C'est le seul livre infaillible qu'on a. La Bible est inspirée divinement. OK? Ceux qui ne croient pas ça, faites une petite étude. J'en ai fait une d'ailleurs, là. Dans le cadre de mes études sur l'Apocalypse. La première étude là, dans la série sur l'Apocalypse, les prophéties, ce que la Bible est-elle crédible? Il faut commencer là. Si la Bible n'est pas crédible, alors vous irez, ceux qui ne croient pas que la Bible est inspirée par l'Esprit-Saint, allez écouter cet enseignement-là. C'est très, très clair. Là. Okay? Alors si, que ce soit les musulmans, que ce soit les témoins de Jéhovah, que ce soit n'importe qui ont des croyances, je ne dis pas que les musulmans, ils sont sauvés, là. On s'entend. Ni les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, c'est une secte. OK? Étudiez leur doctrine comme il faut, là. C'est pas parce qu'ils ont une partie de vérité que ça veut dire qu'ils sont sauvés. Ils n'ont pas Jésus-Christ. Ils ne comprennent pas le salut, là. Les musulmans, encore bien moins. Mais s'il y a des choses dans d'autres religions qui concordent avec la Bible, puis si c'est comme les musulmans, c'est le cas, on les traite de fanatiques, puis ils le sont, malheureusement, sur des aspects qui sont inacceptables. Mais s'ils ont raison par rapport à des pratiques qui sont bibliques, ben on ne peut pas les critiquer là-dessus. Mais toi, tu vas être critiqué là-dessus parce qu'on va comparer tes croyances à ces musulmans-là. Là, on va dire, « Ah, tu crois comme les musulmans. » Hein, tu crois que les musulmans croient à la polygamie, là, en tout cas, on ne croit pas ça, mais tu crois que Dieu n'aime pas ça, les péchés sexuels, là. Oui, je crois même à faire à ce niveau-là. Alors, traitez-moi de fanatique si vous voulez. Moi, mon but, c'est de dire comme Dieu dit. Si Dieu le dit, aucun problème. Pensez ce que vous voudrez, moi, ça ne me dérange pas. Pas vous qui vont me juger. À la fin de ma vie, Dieu, il ne demandera pas vos commentaires, là. Jésus a dit, « Celui qui m'aime va aimer mes paroles. » La Bible, elle vient de Jésus. Tournez ça du bord que ça voudra, c'est de même. Alors, l'adultère, c'est pas parce qu'on est d'une génération que tout le monde commet l'adultère puis la débauche, ça veut dire que c'est correct. C'est le contraire. Jésus a dit que c'est une génération perverse, corrompue, ils vont être jugés. Puis ça a dit à une autre place dans l'Épître aux Corinthiens, « Sortez du milieu d'elle, séparez-vous, dit le Seigneur, puis je vais vous accueillir. » Il faut qu'il y ait une différence, là. Entre les chrétiens et les gens dans le monde. Si on est rendu, puis c'est ça le cas malheureusement, si on est rendu qu'on pense comme les gens du monde, qu'on agit comme les autres, bien on va être jugé comme les autres aussi, on n'est pas des chrétiens. Il y a beaucoup de monde dans les églises qui pensent qu'ils sont des chrétiens, puis ils ne le sont pas. Et ça qui est triste. L'adultère, la définition, celui ou celle qui viole la fidélité conjugale. Ça, c'est des gens qui sont mariés. Avoir une relation sexuelle avec une personne autre que son conjoint. Alors, ce qui est différent de la fornication, la débauche et l'adultère, c'est que la fornication et la débauche, tu as des relations sexuelles et tu n'es pas marié. Puis l'adultère, tu as des relations sexuelles, tu es marié, mais tu as des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre que ton conjoint. Tu es un adultère. Deutéronome 22, 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. Hein? Comprends-tu? C'est sérieux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Parole de Dieu, mes amis. Adultère. Imaginez, le roi David, il était pris en adultère, le prophète est allé vers lui. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu sais, ça ne veut pas dire que, parce que David, le fait que Dieu était d'accord avec ça, là. Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Le fils qui t'est né mourra. OK, David n'a pas été lapidé, là. OK? Il aurait dû l'être. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a personne parmi le peuple qui ont voulu faire la job, là. Mais légalement parlant, là, David aurait dû être lapidé. OK? Dieu a continué à être avec lui pareil, puis on a vu que plus tard, il s'est repenti. On a le psaume 51 qui parle du repentir de David. Alors, dans le cas de David, là, on l'a vu tantôt, Dieu il a dit l'ancienne alliance n'a pas fonctionné. OK? Alors, il y a eu du compromis des deux côtés. C'est pas que Dieu est infidèle, là. Dieu a toujours été fidèle à sa parole. Dieu a jamais changé d'idée sur ses standards. Ce qui était péché dans la parole de Dieu, c'est encore péché aujourd'hui. Alors, David s'en est sorti. S'en est sorti? Ça veut-tu dire qu'il n'y a pas eu de conséquences? Faux. Il y a eu deux jugements. Premièrement, le fils qui est né de cette femme-là est mort. C'est très grave comme jugement. Puis la deuxième affaire, c'est que le prophète a dit « L'épée ne s'éloignera pas de ta maison. » Si on lit la vie de David, on voit qu'il y a des conséquences. Comprenez-vous? Pas parce qu'il n'a pas été tué qu'il n'y a pas de conséquences à ton péché. Puis si tu regardes la vie, fais une étude sur la vie des enfants de David. OK? Puis tu vas voir, on l'a vu tantôt avec Amon, puis on va le voir aussi avec Absalom. Salomon. Comprends-tu que Salomon, il a dérapé pas à peu près? OK, c'était un homme qui avait un appel de Dieu. Il était loin de Dieu comme roi. OK? Désastreuse fin de vie. À la fin de sa vie, c'était devenu un idolâtre. Un gars qui vivait pour la sexualité. Il avait un harem, là. Je pense qu'il y avait 1000 femmes. Comprends-tu que ça a dérapé, là? Alors, le péché de David, là, s'est aussi manifesté dans ses enfants. Alors, venez pas me dire qu'il n'y a pas de conséquences à nos péchés. Dieu pardonne, mais malheureusement, le péché, c'est un levain. Si tu mets du levain dans la pâte elle va lever et il va y avoir des conséquences. C'est malheureux. Dieu, dans son ultime bonté, okay, parfois il va venir, il va remédier à certaines des conséquences. Pas toujours. Dans le cas de David, Dieu n'est pas intervenu. Important de comprendre ça. On a un beau passage dans l'Ancien Testament. Imaginez, là, les gens pensent que la grâce de Dieu, c'est juste dans le Nouveau Testament. C'est faux. Vous lirez le livre du prophète Osée. On va lire ici Osée 1, 2. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. » Il alla et il prit Gomer. Alors, vous feriez quoi, vous autres, si le Seigneur, vous êtes un prophète, là, il y en a qui aimeraient ça des prophètes de Dieu. Tu sais. C'est comme les gens qui se disent des apôtres aujourd'hui. Apôtres, là, c'est comme le top de l'échelle. Là, tu sais, ils se voient comme vraiment là, la crème de l'Église. Là. sais, puis là, il faut les honorer. Il y en a un à Montréal, il se dit apôtre, là, puis quand il va dans une réunion, il débarque de l'auto, là, quelqu'un qui l'a vu l'autre fois, puis il y a une petite femme, pas sa femme à lui, là, il y a une femme de l'église qui l'accompagne, là, puis quand il est descendu de l'auto, elle avait un petit balai, tu comprends? Elle avait une petite brosse, là, puis elle a brossé les épaules de son manteau, là, pour être certain qu'il n'y a pas de cheveux, vraiment qui paraît très bien, tu sais, vraiment le monsieur apôtre, il est important. Comprenez? Alors, c'est comme une vedette, hein? C'est comme il y a sa BMW, sa Mercedes, là. C'est un apôtre. Attention, l'apôtre va entrer. Comprenez? Et il y en a qui aimeraient être des prophètes. Oh, le grand prophète de l'Éternel. Attention. Paul a dit que il dit nous, les apôtres, on est comme les balayures du monde, là. Alors, Paul, il ne se faisait pas balayer les petites poussières sur ses épaules. C'est lui qui était la balayure du monde. Aux yeux des gens, il était méprisé. Puis les prophètes, ben souvent les prophètes, ils se faisaient tuer, là. Pourquoi? Parce que parfois, Dieu leur donnait des mandats d'aller dévoiler le péché, d'aller dire aux gens qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Puis Jésus, dans son ministère prophétique, a fait la même chose, là. Pourquoi tu penses qu'ils ont crucifié Jésus? Ils l'aimaient. Ah, Jésus, t'es tellement gentil. T'es tellement aimable, ce Jésus-là. Ah oui, Jésus, de l'amour comme Jésus, ça se peut pas, là. C'est les gens qui ont eu des visions de Jésus, souvent ce qui ressort, ils disent dans ses yeux, il y a un amour tellement profond. Tu sais, j'ai tellement hâte de voir le Seigneur, là. J'ai tellement hâte de voir son regard, là. Il est tellement bon, Jésus est tellement bon. Mais aussi, il dit la vérité. Ça, c'est le côté que les gens n'aiment pas. Puis ils l'ont tellement pas aimé qu'ils l'ont crucifié, comprends-tu? Puis même dans l'Ancien Testament, la grâce de Dieu était là. Regarde Osée chapitre 3, versets 1 à 3. L'Éternel me dit, « Va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël et se tourne vers d'autres dieux. » Tu comprends? Le Seigneur a demandé à Osée d'aller marier une prostituée. Le gars, c'est un prophète. Comment tu penses qu'il s'est senti là-dedans? Là? Puis comment tu penses que les gens ont perçu Osée? Comme dans le temps de Joseph et Marie. Là. C'est Marie est enceinte par le Saint-Esprit, comprends-tu? Joseph, il voulait la quitter, là, mais c'est un ange qui a dit à Joseph, non, elle dit vrai, la fille. Là. Mais il devait être le seul à comprendre ça à son époque, là. Comment tu penses que les gens de Nazareth, ils voyaient Marie, là? Ils la voyaient comme une pute, là. Ils la voyaient comme une femme de bas rang qui aurait dû être lapidée, là. Jésus, il voyait comme un bâtard. Quand il retournait dans son village, les gens, ils se rappelaient de ce qui s'était passé, là. Oh oui, c'est le fils de Marie, lui-là, là. On connaît l'histoire, hein? Elle a dit qu'elle était mise enceinte par le Saint-Esprit, Marie. Penses-tu qu'ils ont cru à ça, là? Non! Quand Jésus est retourné dans son village, là, ça le dit, il n'a pas pu faire là beaucoup de miracles parce que les gens ne croyaient pas en lui. Pourquoi ils ne croyaient pas en lui? Ils ne croyaient pas en lui parce qu'ils n'ont pas cru non plus l'histoire à Marie que c'était le Saint-Esprit qui l'avait mis enceinte. Voyons donc. Tu sais? On voit ça des fois, on lit la Bible, on pense que tout était facile. C'était pas facile pour Jésus. Puis c'était pas facile pour les prophètes non plus dans l'Ancien Testament. Tu sais, Dieu, il te demande, va marier une prostituée. OK? Il est allé. Pire encore, comme on l'a vu au chapitre 3, la fille a deux enfants avec Osée. Elle retourne dans sa débauche. Alors, évidemment que la prostitution était acceptée, là. C'est quand j'ai dit tantôt que Dieu y est arrivé et qu'il a dit, c'est avec l'expression d'un blâme là, qu'il a changé l'alliance. Parce que Dieu n'était pas satisfait du tout de comment ça s'est passé. Il savait que ça se passerait comme ça. Il savait que c'était nécessaire de mettre un standard, de donner la loi pour les humains tellement orgueilleux et arrogants qu'ils comprennent bien solide là, qu'ils sont des pécheurs qui sont perdus. Puis ça, on a donc de la misère à accepter ça. On est des pécheurs et on est perdus sans Dieu. Ça, ça, c'est un autre message qu'il ne faut pas dire, comprends-tu? Il faut que tu ailles vers les gens aujourd'hui. On est tellement rendu loin dans l'apostasie là, qu'on enseigne ça dans les églises. Va vers les gens et dis-le qu'ils sont des enfants de Dieu. Ah, oh, papa vous aime, puis Dieu vous aime tellement, vous êtes beau, puis Dieu est avec vous, puis Dieu vous bénit. Pas vrai! La Bible a dit que si on n'est pas en Christ, la colère de Dieu demeure sur nous. C'est qui que je vais croire? Les beaux petits pasteurs de la grâce ou la Bible? Comprends-tu que je vais croire la Bible? C'est pas qu'on n'aime pas les gens. Fait 500 villages que je visite, là, à rencontrer le monde dans leur maison. Fait 10 ans que je fais ça. Penses-tu que je les aime pas? Mais je les aime assez pour aller les voir avec amour, les consoler, en prendre soin, prier avec les autres, leur donner la parole de Dieu. Puis leur dire la vérité avec amour, voyons donc. C'est pas toujours facile. Les gens ne me sautent pas au cou, ne m'embrassent pas en disant « Ah, oh, merci, tu m'as dit que je t'ai perdu. Ah, oh, je t'aime, Claude. » Non. Mais ils doivent l'entendre avec amour. Aussi, ils doivent entendre qu'ils peuvent être sauvés. Mais quand même, tu leur dirais qu'ils ont besoin d'être sauvés. S'ils ne savent pas, s'ils n'acceptent pas le fait qu'ils sont des pécheurs perdus, pourquoi j'ai besoin d'un sauveur? Voyons donc. Comprenez? Imagine, la femme, elle retourne dans sa débauche. Ils ne l'ont pas lapidé. Pourquoi? Parce que probablement que les trois quarts du village ont couché avec. Tu sais? Puis là, Dieu va voir Osée qui devait être brisé comme ça se peut pas. Déjà, une marine prostituée, c'est pas facile. Elle retourne dans la débauche. Le cœur brisé, je suis convaincu qu'il devait être en dépression. Dieu lui dit, Osée, va la chercher. Plus encore, paye pour elle, rachète-la et reprends-la comme ta femme. Aïe, aïe. Parlez de la grâce de Dieu, vous autres. La grâce de Dieu là, est éminente dans l'Ancien Testament. C'est clair. L'amour de Dieu n'a jamais changé. Monde, il trouve que Dieu est sévère. Dieu il est sévère, c'est sûr, par rapport au péché. Il n'y en a pas de compromis entre Dieu et le péché. Qu'est-ce que vous pensez? Mais si on se détourne du péché, on est accueilli. Puis même dans sa sévérité, même dans sa justice, on a un exemple. Là. Dieu l'avait dit dans la loi. Comprends-tu? Tu vis dans débauche, tu vas mourir. C'est pas que Dieu trouve que la débauche, c'est correct et acceptable. Là. C'est qu'il veut qu'on comprenne ses sentiments, son amour. Puis là, il dit, aime-la. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux. Si on continue à lire l'histoire, tout le livre d'Osée, Dieu y a un combat dans son cœur. D'un côté, il faut qu'il y ait un jugement à cause du comportement. De l'autre côté, il est tellement plein d'amour, il veut tellement tout faire pour qu'il se détourne de leur faux dieu, puis détourne de leur péché dégueulasse. Qui va aller vers un prophète pour que le prophète devienne une illustration de son amour. C'est ça qu'il a fait avec Osée. Il dit, tu vas, à travers toi, ils vont peut-être comprendre comment que je les aime. L'apôtre Paul, il dit dans un des épîtres, l'amour de Dieu te pousse à la repentance. Si vous lisez la suite du livre, puis la suite de l'histoire d'Israël, vous allez vous rendre compte que malheureusement, ils ne se sont pas détournés de leur péché. Puis Dieu n'a pas passé outre. Dieu pleurait, Dieu avait le cœur brisé de voir Israël comme une adultère. Mais Dieu a jugé, puis la nation a été jugée. Ce n'est pas parce que Dieu est bon qu'il n'y aura pas de jugement. Dieu est bon, sa bonté est réelle, puis c'est pour ça qu'il a fait une nouvelle alliance. Pour ça qu'il est venu lui-même. Parce que la première alliance n'avait pas fonctionné à son goût. Il dit, je vais en faire une meilleure. Mais celle-là, ça ne sera pas avec l'homme. La nouvelle alliance est faite en Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est une alliance parfaite. C'est pour ça que celle-là est éternelle. Quiconque vient à Jésus-Christ, quiconque vient au Fils a la vie éternelle à cause de cette alliance-là. N'importe qui, de n'importe quelle nation, n'importe quelle race. Quiconque vient à Jésus-Christ pour être pardonné, qui se repent de ses péchés, qui se détourne du mal, qui reçoit le Saint-Esprit pour vivre une vie glorieuse avec Dieu, à la vie éternelle. Alors, le point 11, évidemment, les conséquences, mort, jugement et destruction. On le voyait dans le Deutéronome. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu le liras, Deutéronome 28. Deutéronome 28, ça ne peut pas être plus clair que ça. Aujourd'hui, c'est ambigu, hein? Les péchés, qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas péché. Ce que j'aime avec la Bible, c'est clair. Tu sais où tu t'en vas. Tu le sais qu'est-ce que Dieu aime, tu sais qu'est-ce que Dieu n'aime pas. C'est ça que ça sert, le Saint-Testament. Et le point numéro 12, la grâce, la rédemption et la victoire sur le péché. Ça, c'est ce que Dieu veut nous donner. Osée 2 et 14. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer, la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de ta bouche le nom des Baals. Tu vois-tu le cœur de Dieu? Dieu dit, je vais t'amener au désert. Je vais t'amener d'un temps d'épreuve. Je vais être obligé de te corriger. Je vais être obligé de t'amener dans quelque chose de difficile. Avec l'espoir que tu vas te repentir. Puis il dit, je vais parler à son cœur. Puis Dieu, il dit, elle va chanter comme au temps de sa jeunesse. Il va avoir de la joie. Si elle se repent, si elle se détourne de ses péchés, je vais lui pardonner. Je vais lui donner ma joie. Je vais lui donner ma paix. Je vais lui donner ma bénédiction. C'est ça que Dieu veut faire. Comprenez? Osée 13 et verset 9. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Osée 14, verset 2 à 4. Revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. C'est vrai, la colère s'est détournée des humains, puis elle s'est tournée vers Jésus-Christ sur la croix. La colère de Dieu est tombée sur lui. Ésaïe chapitre 53. La colère de Dieu est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, que nous sommes sauvés. Le Seigneur avait compris que l'ancienne alliance n'était pas suffisante. Il fallait aller plus loin dans l'amour. C'est écrit dans la parole de Dieu, Jésus a dit au Père, alors j'ai dit, tu n'as voulu ni l'offrande pour les péchés, ni holocauste, ni sacrifice. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Jésus savait, il avait été prophétisé que Dieu allait s'incarner dans la personne de Jésus, que son amour allait aller jusqu'au bout. Et la colère du Père, la colère contre le péché, la colère contre mon péché, contre ton péché, la colère juste de Dieu, la colère de jugement contre le mal. Dieu ne peut tolérer le mal. Le péché sexuel mène à la mort, à la mort. Sans Jésus-Christ, les gens vivent dans le péché. Les gens ne sont pas mariés, couchent ensemble. Ils s'imaginent qu'ils vont mourir, que tout ira bien. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Le standard de Dieu n'a jamais changé. La seule option, la seule alternative, c'est de venir à la croix, de reconnaître notre péché, de dire, Seigneur, je mérite la mort. Je l'ai lu dans ta parole. Je commets tel péché, je mérite la mort. Et si je meurs comme ça, c'est ce qui va se produire parce que ta parole ne peut pas mentir. Je vais mourir en enfer, éternellement. Mon corps va mourir, mais mon âme va continuer d'être morte spirituellement. Le péché nous tue spirituellement. Dieu a payé. Jésus a payé pour mon rachat, pour mon pardon. Il y a un petit chant qu'on chantait quand je suis devenu chrétien, ça disait « Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. » Peu importe notre passé, peu importe les actions qu'on a commises, Jésus a payé. Jésus a payé. Allons à lui. Repentons-nous. Tournons-nous vers le Seigneur. Recevons son pardon. Recevons son Esprit Saint. Je vais terminer avec une prière. Alors, c'est évident, je vais le faire en deux sessions. Dans la prochaine session, on va regarder l'aspect des péchés de sexualité dans le Nouveau Testament. On va terminer en prière. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci de m'avoir éclairé. Merci, Seigneur, de m'avoir donné avec autant de clarté ce qui est bien et ce qui est mal. Je me repens. Je te demande pardon. Je regrette. Je hais mes péchés, Seigneur. Je viens à ta croix, où tu es mort, où ton sang a coulé par amour, dans ton regard. Dans ton regard, Seigneur, il y avait ce regard. Comme tu l'avais dit au prophète Osée, je veux la voir chanter comme au temps de sa jeunesse. Je veux la libérer de son malheur, de sa prostitution, de ses péchés sexuels. Je veux la libérer. Je veux qu'elle redevienne pure. Je veux qu'elle chante comme avant, purement, chanter pour Dieu. Pardon, Seigneur. Pardon. Je me repens de mes iniquités. Lave-moi. Fais de moi ton enfant. Viens habiter par ton Esprit Saint dans ma vie. Donne-moi la victoire. Je veux te suivre, Seigneur. Viens, Jésus. Rentre, Seigneur, dans mon esprit, dans mes pensées, dans mon intelligence. Purifie-moi. Donne-moi la victoire. Je place ma foi en toi, Seigneur Jésus. La puissance de ta croix, la puissance de ta victoire me libère, me délivre et je résiste maintenant à tout esprit d'impureté, de démon. Je vous chasse au nom de Jésus. Vous quittez ma vie maintenant. Vous quittez ma maison. Vous quittez mon entourage au nom puissant de Jésus. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Pur. Saint, lavé par le sang de l'agneau, blanc, plus blanc que la neige. Jésus, merci.